On va donc finir notre 5-0-5 avec des questions diverses. Hein, faire un peu le point sur ce qu'on a pu voir. Et reprendre un peu tout ça. Donc là, vous avez la parole. J'ai prévu quelques... Hein? Oui, oui, oui. Hein, j'ai prévu quelques... certaines choses desquelles nous allons parler, mais voilà, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne là maintenant? Dans les questions diverses que je vous propose maintenant, je vais vous en donner quelques-unes. La première, c'est quelle est la place de l'empathie et des états d'âme dans l'accompagnement pastoral? La deuxième, c'est quel est l'intérêt pour le souffrant de ne pas avancer? De ne pas avancer. Souvent, chez le souffrant, on voit, vraiment ça arrive assez fréquemment, quelqu'un qui préfère être assisté, en fait, que d'être autonome. Hein, quel est l'intérêt pour le souffrant de ne pas avancer? Le souffrant entend quelque chose, mais il n'en tient pas compte. Il ne veut pas avancer, il ne veut pas, par exemple, à la fin d'un entretien pastoral, je propose au souffrant de prier, et s'il a compris quelque chose de la part du Seigneur, de s'engager avec le Seigneur en disant, voilà, j'ai compris ça et je souhaite bien, dans le chemin qui est devant moi, d'aller dans le sens d'intégrer cette donnée. Oui.
C'est quoi l'intérêt du malade de ne pas avancer?
Oui.
C'est une question.
C'est ça, oui. Justement, c'est une question que je propose. Voilà. Voilà. Troisième question, que faire quand on a quelqu'un qui vient vers nous, comme si on était Dieu en personne, hein, ou bien un magicien, hein, quelqu'un, on va voir cette personne-là et c'est sûr qu'on va être, on va aller mieux, on va être guéri. Hein. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse quand il y a énormément d'admiration, ou quand il y a finalement un rapport à l'autre, un rapport à l'accompagnant qui n'est pas clair? Une autre question, c'est comment vivre le deuil? Une autre question, c'est que faire face à l'occultisme? Une autre question, c'est comment sortir d'une dépendance? Drogue, alcool, pornographie, on peut dire footing, hein, on peut dire toutes sortes de choses desquelles on est dépendant. Parce qu'il y a des gens qui en fait disent ouvertement « moi je ne peux pas vivre sans mon footing » et qui ne sont bien que quand ils font du footing. Parce qu'au moins il n'y a personne pour les enquiquiner quand ils courent. Et quand ils courent, ils ne pensent pas à l'ensemble des problèmes qui se posent à eux dans une journée. Ça, c'est une dépendance. Ce n'est pas vivre dans l'esprit. Oui, oui, si, si. La lecture de la Bible peut être une dépendance aussi. Parce que ça peut être une fuite. Ouais. Notre question, c'est comment bien communiquer? Hein, des questions, il y en a 50 000. Je vous en propose quelques-unes pour que le sujet soit vraiment posé. Une autre question, c'est qu'est-ce que c'est que pardonner? Et je suis étonné par, dans les entretiens pastoraux, comment on a besoin de répondre à des questions simples comme celle-là, et on a besoin d'avoir des définitions courtes et précises et accessible aux gens, Hein, répondre en quelques mots. Voilà. Qu'est-ce que vous direz si quelqu'un vous dit « Comment est-ce que je peux discerner la volonté de Dieu ?» Ou bien, qu'est-ce que c'est que la conscience ? Ou bien, comment pardonner ? Et donc, logiquement, celui qui s'investit pour être disponible dans un travail pastoral, il faut qu'il réfléchisse à ces choses. Alors, dans les questions là, que je vous ai proposées, est-ce qu'il y en a une qui vous interpelle, dont vous voudriez qu'on parle ? Oui, Denis ?
C'est quoi l'intérêt d'être malade ?
Donc la question, c'est quel est l'intérêt pour le souffrant de ne pas avancer? On voit un souffrant qui dit par exemple, moi, je ne sais pas parler aux personnes de l'autre sexe. Voilà. Et donc, sans du tout entrer dans les raisons qui ont fait que cette personne-là soit vraiment gêné avec les personnes de l'autre sexe, on peut dire, voilà, Dieu place des gens sur notre chemin, ces gens-là sont nos prochains, et donc, dans nos prochains, hein, dans les quelques prochains que nous avons qui nous sont proches, nous avons à la fois des hommes et des femmes. Donc, ne faisons pas le tri, parlons aux hommes et aux femmes, et quand il y a l'occasion de parler à quelqu'un de l'autre sexe, alors on y va, même si on bafouille, même si on ne sait pas que dire, même si ça va mal se passer, mais on y va. Et quand je vois les gens de semaine en semaine, la semaine d'après, je dis alors, vous y êtes allés ? Ils me disent non. Pourquoi ? Ben, je ne me suis pas senti. Alors on dit, d'accord, on dit bien. Hein. Et on en parle, on essaye de comprendre en fait comment est-ce que ces choses peuvent se faire. Et donc de semaine en semaine, je constate que cette personne-là n'a pas comme projet d'aller vers son prochain. Je le constate. Et donc je pose la question... Quel est l'intérêt pour le souffrant de ne pas avancer ? Et la réponse que je vois, une des réponses, parce qu'il y en a certainement plusieurs, c'est que le souffrant est plus d'accord avec sa propre perception des choses qu'avec la pensée de Dieu qui lui est révélée. La pensée de Dieu, c'est « aime ton prochain comme toi-même ». Donc, va vers ton prochain. Mais le souffrant dit, quand je vais vers mon prochain, je suis en insécurité, donc je n'y vais pas. Mais je vais faire une démarche, moi, en disant que je suis mal. Mais j'attends de la personne qui m'accompagne, en fait, qu'il ou elle m'encourage et me permette d'aller mieux. Mais non, à ce projet d'aller vers mon prochain, là, on n'y touche pas. Et comme on l'a dit plusieurs fois, c'est d'idolâtrie. C'est préférer sa propre pensée à la pensée de Dieu. Et donc, il y a un travail relationnel, hein, de remettre le Seigneur, le Christ, au centre. Il y a un travail de compréhension, hein, si mes paroles demeurent en vous. Un travail de compréhension, il y a un travail de rappel de ce que l'Esprit de Dieu dit. Ce travail-là est un peu long, et quelquefois il aboutit, et quelquefois il n'aboutit pas. Et donc, il y a un peu un mystère dans cette faculté que l'humain a de préférer sa propre pensée à la pensée de Dieu. Hein, on se dit de manière très absolue, c'est tellement simple de préférer la pensée de Dieu à tout moment. Mais quand on comprend qu'il y a quelque chose de il y a une clé là-dedans. Hein, quelque part, quand on peut amener le souffrant à dire, mais pourquoi préférer votre pensée à la pensée de Dieu ? Dieu vous dit, allez vers votre prochain. Alors, mettez-les en œuvre, simplement. Et donc, quand on pose cette question au souffrant, je crois qu'il a une clé que l'esprit... de Dieu va lui donner à ce moment-là. Hein, il a une clé pour, à un moment donné, réagir, pour sortir finalement, de cette situation que le Nouveau Testament appelle charnelle, hein, de préférer marcher selon la chair plutôt que selon l'esprit. Hein, de manière autonome plutôt que de manière en communion avec Dieu. Alors, est-ce que c'est suffisamment concret? Est-ce que vous voulez qu'on précise certaines choses? Ça va? Oui?
Est-ce qu'on n'a pas des fois des prononcés avec des souffrants qui finalement aiment la pitié des gens pour eux, aiment l'intérêt que les gens leur portent quand ils vont mal et qui donc, d'un certain côté, cherchent à souffrir pour susciter l'intérêt des gens?
Oui? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que il y a des souffrants qui alimentent leur propre souffrance pour faire pitié, mais c'est jamais dans leur perspective aussi clair que ça, mais je pense que c'est clair dans leur comportement. Il faut affirmer que c'est beaucoup plus difficile d'être dans la démarche d'aimer les autres que d'être dans une démarche de faire ce qu'il faut pour que les autres nous aiment. Et cette apposition de ces deux réalités, aimer et être aimé, c'est un peu un des cœurs de la vie chrétienne et de la souffrance des chrétiens. La plupart du temps, on cherche à être aimé. Pour moi, chercher à être aimé, c'est idiot. Hein, je ne cherche pas à être aimé par vous. Moi, je cherche à vous aimer, c'est pas pareil. Parce qu'en fait, chercher à être aimé par vous, à être accepté par vous, c'est pas de ma responsabilité. Si quelqu'un ne m'aime pas, il a peut-être raison, il a peut-être tort. Mais moi, je ne suis pas juge pour le savoir. C'est Dieu qui juge. Et donc, chercher à être aimé de vous, c'est quelque chose qui est inaccessible. Je ne peux pas, moi, je n'ai pas de prise là-dessus, en fait. Par contre, vous aimer, c'est être ce que je suis devant Dieu, en conscience. C'est dire ce que j'ai à dire. Et donc, quand on déroge de cette grande règle, finalement, d'aimer son prochain, alors il y a quantité de règles qui n'en sont pas, ou de comportements qui sont des comportements déplacés, dévoyés, dont le comportement de chercher à plaire à l'autre pour que l'autre nous accepte. Hein, moi, je cherche à ne pas être seul. Donc, pour ne pas être seul, je suis d'accord de faire ce qu'on me demandera. Ou pour en fait avoir ce dont j'ai besoin, je suis d'accord de faire ce qu'on me demandera. On trouve ça dans l'entreprise, on trouve ça malheureusement dans l'église, hein, où quand dans l'église il y a des luttes de pouvoir, où on veut être à telle place, on cherche à s'attirer les faveurs de l'un et de l'autre. Et tout ça reste quand même très complexe, parce que quelque part il faut bien que l'église fonctionne. Il faut bien que les choses se fassent. Si on attendait à chaque fois que tout soit très 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 droit pour que ça se fasse, alors rien ne se ferait. Hein, si on attend par exemple dans une entreprise comme la faculté de théologie que tout le monde soit bien ensemble pour fonctionner, alors ça ne se fait jamais, en fait. Non, il faut que chacun... trouve sa place, mais on a quand même un idéal qui est d'aller vers notre prochain. Alors, comment faire avec quelqu'un qui est dans cette dynamique-là? Hein, comment accueillir quelqu'un? Eh bien, on a donc trois clés. Hein, la première clé, c'est la clé de la souffrance. Alors, merci, j'en profite pour dire merci à ceux, il y en a cinq, je crois, qui m'ont fait parvenir leur devoir. C'est bien parce que ça me permet de me rendre compte de qui a compris ou qui n'a pas compris, en fait, ces trois clés. Je crois que j'insisterai jamais assez sur le fait que la première clé est essentielle. décrire la souffrance. Quelqu'un qui viendrait me voir en disant « je souffre parce que... » Alors, pour reprendre le cas que propose Jean-René, quelqu'un vient me voir en disant « je souffre parce qu'en fait, personne ne s'intéresse à moi. » Bon. Et donc, en fait, il vient voir quelqu'un dont la fonction est de s'intéresser à lui, justement. Donc là, il sait qu'au moins, pendant une heure, pendant le temps de l'accompagnement pastoral, il aura quelqu'un qui s'intéressera à lui. Bien. Et donc, moi, je vais dire à cette personne, mais elle est où, votre souffrance, en fait? Personne ne s'intéresse à moi. D'accord? Oui, mais dans un sens, moi, je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse à moi. Hein? Dans un sens, moi, quand je suis en train de parler d'un cours ou d'accueillir quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un s'intéresse à moi. Moi, je suis en train de m'intéresser aux autres, en fait. Et je vais dire à la personne, mais... elle est où votre souffrance, en fait? Mais vous ne comprenez pas, personne ne s'intéresse à moi. Oui, mais je lui dis, mais vous me dites ça, est-ce que ça correspond à quelque chose que Dieu vous demande? Que les autres s'intéressent à vous? Ah ben bien sûr, Dieu demande aux autres de m'aimer. On est d'accord. Non, mais c'est souvent tordu, hein, comme... hein? Donc les autres, voilà, Dieu leur demande... Oui, j'ai dit, à ce compte-là, je vais dire, mais est-ce que Dieu vous demande à vous d'être le juge des autres? Alors non. Et donc, alors dites-moi un petit peu, on va prendre les choses une par une. Est-ce que, par exemple, dans votre famille, personne ne s'intéresse à vous? Alors on va voir les parents, s'ils sont là. On va voir les enfants, on va voir les frères et sœurs, on va voir ceux qui sont dans, dans la proximité. On va mener un peu une enquête. Voilà. Et donc, on va voir que... Ah oui, donc, du côté des parents, en fait... non, ils sont géniaux, mes parents. Mais, en fait, à un moment donné, j'avais besoin d'argent, mais ils ne m'en ont pas donné. Hein? Et là, on va rentrer dans quelque chose de très simple. Et on va voir que cette personne reproche à ses parents de ne pas avoir donné d'argent. Et donc, on va dire, mais... finalement, s'ils ne l'ont pas fait, peut-être que Dieu leur a demandé de ne pas le faire. Et donc, on va prendre point par point et aider la personne avec des choses qui nous paraissent vraiment élémentaires. Mais il faut revenir à ces choses élémentaires, point par point. En quoi est-ce que la personne estime qu'on ne s'intéresse pas à elle? Je pense, par exemple, que dans un cadre comme le nôtre, si quelqu'un voulait poser une question et que pendant les 12 heures du cours que je donne, je ne lui donne jamais la parole... alors il y aurait quelque chose d'objectivement déplacé. Et donc, ce qu'il faut, c'est reprendre toutes ces circonstances très concrètes et permettre aux souffrants, en fait, de voir les choses à la lumière de l'Esprit de Dieu, objectivement. Eh bien oui, eh bien non. Les choses se sont faites comme ça. Alors si, effectivement, personne ne s'intéresse à lui ou à elle, alors on peut reconnaître que personne ne s'intéresse à lui ou à elle. Pourquoi? Pour tout un ensemble de raisons. Et si ces gens ont raison, alors le souffrant peut en tenir compte. Il peut dire, ben oui, personne ne s'intéresse à moi parce que je n'ai rien à dire. Parce que quand je parle, je me plains. Parce que, en fait, je ne me lave pas, alors je sens mauvais. Parce que je n'invite jamais chez moi. Parce que je critique tout le temps, etc. Donc si on rentre de manière très simple, très concrète dans tout ça, on va pouvoir aider quelqu'un à vraiment comprendre que, d'une part, cette personne doit faire quelque chose, et d'autre part, pour revenir précisément à ce dont parlait Jean-René, c'est qu'on ne peut pas vivre aux dépens des autres. Hein, on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir comme projet... de faire les choses pour que les autres viennent vers nous. Oui. La place de l'empathie. L'empathie, Pathos, c'est donc, dans le grec du Nouveau Testament, à la fois la souffrance, mais aussi le mouvement intérieur qui peut être traduit par passion, qui est la sympathie, c'est la passion avec, hein, donc, et l'empathie, c'est le fait de c'est très proche de la sympathie, c'est le fait de vibrer, de ressentir avec quelqu'un qui souffre. Et quelle est la fonction de l'empathie? L'empathie permet au souffrant de comprendre qu'il est entendu. Quand, par exemple, le souffrant parle de ses mauvais rapports avec son conjoint, hein, par exemple, hier soir, à 19h, j'avais une jeune femme qui me parlait malheureusement du fait que, depuis la nuit de noces, depuis un mois et demi, son mari n'a pas pu avoir de relations sexuelles avec elle, parce qu'elle est tétanisée, et, excusez-moi de donner des détails précis, mais elle n'arrive pas à ouvrir les jambes. Hein? Et donc, en fait, si je suis avec quelqu'un comme ça, tout sourire, en fait, c'est, y a quelque chose de très déplacé. En fait, comment vivre de manière simple quelque chose qui est extrêmement douloureux? Si par exemple, en entendant ces choses-là, je me mets à pleurer, il y a aussi quelque chose de déplacé, parce qu'en fait, si moi je pleure, alors elle, c'est bientôt elle qui va me réconforter, en fait. Hein? Et donc, l'empathie, c'est d'être dans le mouvement intérieur de mon être, d'être à ma place. Est-ce que c'est assez précis, ça, comme définition?
Si on est tout souriant alors qu'on est face à une situation désastreuse, ça ne va pas. Et si on pleure avec la personne, ça ne va pas aller non plus. Enfin, j'ai du mal à saisir, en fait.
Voilà.
Surtout quand on est face à des situations très difficiles, comment gérer nos émotions.
J'ai pris des cas extrêmes. Hein, j'ai pris le sourire ou les pleurs. Mais je crois que ces choses-là se font de manière très naturelle quand on est vraiment avec les gens. Parce qu'on va ressentir quelque chose qui est fonction de ce que l'autre nous dit. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein, quand, par exemple, je pense à une maman de 55 ans qui a une fille de 21 ans qui a été abusée sexuellement dans un parc à Marseille et qui me raconte son abus. Moi qui ai des enfants, hein, c'est quelque chose de difficile à entendre. Et donc, il s'agit d'être soi-même. L'empathie, c'est tout ce que mon état émotionnel donne à l'autre, de comprendre en fait qu'il est compris, qu'on est bien ensemble. Et donc, on n'a pas à travailler l'empathie. On a à être soi-même. Hein, l'empathie ne se travaille pas. Ce qui doit se travailler, c'est d'enlever tout ce qui est faux. En fait, ce qui est faux, c'est d'être abattu. Comme on l'a vu, l'esprit abattu. Quand quelqu'un a l'esprit abattu, proverbe 18, verset 14, qui, en fait, quand quelqu'un a l'esprit abattu, il ne pourra pas se relever. Donc, quand quelqu'un est en souffrance et vient voir quelqu'un qui est là pour l'accompagner, il faut que celui qui l'accompagne, il n'ait pas l'esprit abattu. Donc, des pleurs excessives montreraient quelque part qu'on est abattu. Donc, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et à la base, c'est ma vie dans l'Esprit de Dieu. C'est ma vie en Christ qui va faire que je vais être à ma place. Mais il y a peut-être des gens qui pensent que avoir des états d'âme, ce n'est pas bon. Donc, en fait, il faut que le pasteur soit raide comme la justice. Voilà. Donc en fait, que le pasteur, par exemple, quand quelqu'un vient voir le pasteur avec la problématique dont parle Jean-René, que le pasteur soit là pour dire « Mais enfin, ça fait 10 fois que je vous dis qu'il faut, mettre en pratique ce verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Bon. Mais là, il y a un problème, certainement, il y a comment dire, de l'impatience de la part du pasteur. Et les états d'âme qu'il communique, la colère, procèdent non pas de la pédagogie, la colère de Dieu, mais procèdent de sa propre impatience, parce qu'il voit que le souffrant est encore dans cet état-là. Ça va? Je me fais plus comprendre? Et après, tout est cas particulier. À chaque cas particulier, on va avoir un état d'âme particulier. Et ce que je veux dire, c'est que, comme on l'a vu dans le rôle des émotions, nos émotions participent à la communication générale, parce que l'émotion, c'est le langage irrationnel de l'être. J'ai bien conscience que, quand je vous parle, il y a des choses rationnelles que je vous dis, mais il y a aussi des choses qui relèvent de l'émotion et que vous lisez en moi. Voilà. Et donc l'empathie, c'est tout ce qui touche aux états d'âme et qui font que la personne souffrante va entendre beaucoup de choses. Par exemple, il y a des gens qui, je pense à quelques personnes qui, venant me voir, parlent énormément et j'ai même pas le temps de les aider à préciser leur souffrance. Quelquefois, j'essaye d'insister et de vraiment qu'on travaille, mais je sens que ces gens-là n'ont pas vraiment envie de travailler. Mais je pense que si je note chez eux un progrès, c'est parce qu'en fait, dans le contact qu'on a, ils lisent en moi, ils entendent en moi, en fait, cette béatitude qui provient du fait d'être posé dans le Seigneur, de dire « voilà mon chemin, il est posé ». Et je n'ai pas besoin de leur expliquer de manière dogmatique, mais ils l'entendent, l'empathie. Ils entendent ces états d'âme, en fait, qui font qu'ils se disent « waouh, hein, moi aussi j'aimerais être en paix avec tout le monde ». Hein, moi aussi, j'aimerais ressentir de l'amour, même avec des gens qui ne m'aiment pas. Ils disent « waouh ». Et donc, ils entendent en fait cette communication irrationnelle, cette communication émotionnelle. Et nous, c'est pour ça que j'ai, dans les 11 cours magistraux que je vous ai proposés, il y a le cours sur les émotions. Pour qu'on ait bien conscience que nos émotions proviennent de ce que nous pensons, d'une part, mais que d'autre part, nos émotions, on n'arrête pas de les communiquer, en fait, aux gens. Et donc, les gens lisent en nous comme dans un livre ouvert. Peut-être pas tout ouvert, il y a des choses scellées, mais mettons que dans vos visages, si on se regarde, c'est pas pour rien. Hein, c'est bien parce qu'on lit des choses sur le visage, et c'est important, on a besoin de dire ça. C'est ça, donc, l'empathie dans le travail pastoral. Peut-être je fais une toute petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ces questions. C'est absolument clair que la suite des choses vous montrera dans quel sens ira votre ministère. Je pense, j'en ai peut-être parlé en première heure, hein, il y a des gens qui ont un ministère de traduction biblique, d'autres personnes qui ont un ministère d'organisation d'œuvres, d'autres personnes qui ont un ministère de conduite d'église ou bien de pratique pastorale. Et donc, ces choses-là, ce cours de 12 heures, est un cours qui peut être très important pour ceux qui ont qui aboutiront vers un ministère de pratique pastorale, mais très peu important pour ceux qui aboutiront vers, par exemple, ce qui touche à la traduction biblique ou peut-être à l'organisation d'œuvres. Parce que là, il faut plutôt être manager ou comptable, ou etc. Et donc, mais je crois que, de différentes manières, ce cours permet de bien prendre conscience de toute notre responsabilité à l'égard de notre bonheur personnel. Et même quand on est comptable, alors je crois que il faut qu'on apprenne à être satisfait. Quand on est comptable, et le comptable de la fac par exemple, ou le trésorier, pourrait être toujours insatisfait parce que la faculté est toujours en déficit. Et donc en fait, lui dans sa fonction de comptable, il faut qu'il arrive à rentrer dans le bonheur de Dieu. Hein, et je crois que ces modules de réflexion sur la pratique pastorale sont importants parce qu'ils nous permettent de comprendre à quel point Dieu nous appelle à être heureux, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Alors sur ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions ? Alors, Denis.
J'avais une question sur la dernière question, qu'est-ce que pardonner ? Parce qu'il y en a qui disent pardonner, il y en a qui disent que c'est tout oublié ce que la personne a fait. Alors du coup, quand si quelqu'un m'a arnaqué et qu'il me demande pardon, eh ben, en fait, on a pardonné, il faut quand même se méfier. C'est ça ou...
Quel est le verbe grec du Nouveau Testament qui est le plus traduit par pardonner ? Je pense pas. Je pense que c'est... Alors, effectivement, aphiemi, qui veut dire littéralement éloigné, est un verbe qui est utilisé pour le pardon, mais le verbe le plus utilisé, je pense, que c'est charizomai. Hein? Et donc, vous avez trois verbes qui sont utilisés, hein, qui sont charizomai, aphiemi et ilastomai. Et ilastomai a donné ilasterion, qui est le couvercle de l'arche de l'Alliance, hein, du coffre. Hein, ce couvercle sur lequel, une fois par an, le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, le sacrificateur entrait avec du sang et mettait du sang sur ce couvercle. Et pourquoi est-ce que ilastomai veut dire aussi pardonner ? C'est que ilastomai, ça veut dire couvrir. En fait, donc, le pardon avec ilastomai, c'est la faculté que Dieu a de couvrir notre faute. Le pardon avec aphiemi, c'est la faculté que Dieu a d'éloigner notre faute. Mais le pardon avec charizomai, je pense par exemple dans Éphésiens 4, 32, hein, quand il dit « Vous pardonnant les uns aux autres comme Dieu en Christ nous a pardonné », alors il faudrait rechercher sur la online, mais je pense que c'est charizomai. Et charizomai, ça veut dire littéralement « apporter la grâce ». Charis, c'est la grâce. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la grâce, déjà ? La grâce, par exemple, moi, j'ai longtemps pensé que entre grâce, bonté, amour, c'était un peu tout pareil. Et non. Hein, la grâce, c'est un mot qui a deux sens de manière assez générale. Premier sens de la grâce, c'est dans son cousin gratuit qu'on l'entend. La grâce, c'est la gratuité. La grâce, c'est ce que Dieu nous donne, non pas à titre de salaire. Hein, on trouve ça un peu développé dans Romains 4, hein, à l'égard de David et d'Abraham, d'Abraham et de David, la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois la vie par grâce. Hein, et donc, je reçois la vie de manière gratuite, en fait. Et... deuxième sens de grâce, c'est que Dieu, quand Dieu fait grâce, hein, la grâce présidentielle, c'est que quand Dieu fait grâce, c'est qu'il ne m'impute pas la faute. Il ne m'impute plus la faute. Donc, il y avait une faute qui faisait séparation entre Dieu et moi. Hein, par exemple, Romains 3, verset 23 ou 24, hein, personne ne peut accéder à la présence glorieuse de Dieu. Donc, en fait, la faute m'empêchait de venir à Dieu. Mais par contre, dans Hébreux 4, il est question de venir devant le trône de la grâce pour présenter les requêtes. Donc, en fait, la grâce, c'est ce qui n'impute plus la faute. Deux choses, la gratuité, Dieu me donne de manière gracieuse, et la justification, Dieu ne m'impute plus la faute. Et vous remarquez... Là, je fais une petite révision, qu'avec ces deux réalités, Dieu me donne et Dieu ne m'impute plus la faute, j'ai deux grandes classes d'émotions, de celles que nous avons vues. L'amour ou la peur, et la colère ou la paix. C'est-à-dire que si je vis dans la grâce, si je vis dans ce que Dieu me donne, alors je n'ai pas peur. Parce qu'en fait, je sais que je suis muni. Je sais que j'ai des choses. Mais si je vis pas sous la grâce parce que je me sens condamné, alors je suis en colère contre moi, j'ai de la culpabilité. Et donc, ces deux aspects de la grâce sont essentiels. Et on revient au sujet du pardon, mais comme ça, c'est un peu cohérent. Pardonner, c'est apporter la grâce. C'est-à-dire qu'en fait, tu m'as blessé. Alors, si tu me demandes pardon, je suis disposé à t'apporter la grâce, c'est-à-dire à te dire que Dieu a justifié ce que tu as fait. Si tu veux le prendre, tu peux te pardonner. Et je peux te transmettre le pardon, apporter la grâce. Et transmettre le pardon, ça peut être quelque chose de, comment dire, de très concret. C'est-à-dire qu'en fait, je te donne quelque chose, ça, un objet, qui va représenter le pardon. Je transmets le pardon. Ça ne veut pas dire que j'oublie. Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas ressentir des choses excellentes à l'égard de celui à qui je pardonne. Parce que si quelqu'un, par exemple, on en trouve malheureusement dans les églises, quand il y a des adultères, et quand il y a des divorces et des remariages qui sont consécutifs aux adultères, alors comment est-ce que doivent faire l'ex-marié et mettons, le conjoint divorcé et l'autre conjoint divorcé qui est remarié et qui fréquente la même église? Pas facile, hein? Mais apporter la grâce, c'est de dire, voilà, en fait, là où l'autre a transgressé justement l'alliance qui a été faite entre les deux conjoints, alors je te donne le pardon. Et là, on peut recommencer à marcher ensemble, ce qui ne veut pas dire que ça soit forcément facile.
Non, mais, par exemple, un kleptomane, si on lui pardonne d'avoir volé quelque chose, du coup, on va quand même se méfier, mais alors, du coup, ça inculpe quelque chose. Et on va se méfier, donc c'est pas un pardon qui met quand même une barrière. Quoi.
Alors, c'est très bien de dire ça, parce que ça nous permet de préciser les choses. Pardonner, c'est charizomai, ou c'est aphiemi, lastomai, peu importe. Mais c'est un acte. Quand je pardonne, je fais quelque chose. Quand je mets la table, je ne passe pas le balai par terre. En fait, je mets la table. Eh bien, se méfier de quelqu'un, ou être lucide sur ce qu'il est capable de faire, c'est autre chose que pardonner. Ce n'est pas parce que je me méfie que je n'ai pas pardonné. Je pardonne, je charizomai, mais j'aide aussi l'autre à sortir en fait de ce qu'il a fait. Par exemple, quand j'ai affaire à quelqu'un qui a été capable d'être adultère, ben c'est clair que je fais attention à ma relation à cette personne. Quand je reçois quelqu'un en pratique pastorale, en accompagnement pastoral, quand je reçois quelqu'un qui a été dans l'adultère et qui veut en sortir, je me dis, mais cette personne-là, elle est capable de me séduire. Elle l'a déjà fait, peut-être qu'elle peut le refaire. Donc, il faut que je l'aide à ne plus le faire. C'est ça, en fait, la lucidité ou l'autre action qu'on a à avoir à l'égard de quelqu'un qui peut avoir blessé. Mais ça n'a pas de rapport avec le pardon. Et donc, aider quelqu'un avec une formule courte du genre charizomai, apporter la grâce, c'est possible et c'est vraiment nécessaire. C'est assez clair ? D'autres choses ? Oui.
Quels sont les conseils que vous donneriez pour aider quelqu'un à sortir d'une dépendance ? Une dépendance, par exemple, aux drogues, au cannabis, aux drogues dures, au alcoolisme ?
Alors, c'est Voilà quelques lignes directrices, mais après, tout cas est particulier. La dépendance, comme dit Éphésiens 5, 18, elle procède... En fait, la dépendance n'est pas le problème de base. La dépendance, c'est toujours une conséquence, en fait, d'un problème spirituel. Vous vous souvenez de ce tableau qu'on a vu dans Savoir conclure, où à gauche, il y avait l'ancrage, où au milieu, il y a les problèmes d'une vie moyennement spirituelle et d'une vie médiocre, et tout, à droite, toutes les conséquences, en fait. Et la dépendance est une des conséquences d'une vie spirituelle médiocre. Il est dit, ne vous enivrez pas, mais soyez remplis de l'esprit. C'est-à-dire que quand on n'est pas rempli de l'esprit, quand on n'a pas un ensemble de choses qui s'imposent à nous pour savoir que faire de notre journée, alors forcément, comme on dit habituellement, la nature a horreur du vide, donc on va faire spontanément ce qui se présente et on va prendre des habitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une dépendance ? D'abord, une dépendance, c'est... Alors voilà une première chose, c'est de dire qu'on risque la dépendance quand on n'est pas complètement occupé avec le Seigneur. Une deuxième chose, c'est que... Une dépendance se forme en réaction à quelque chose. Je vais me droguer parce que... Mais je ne saurais pas forcément que c'est à cause de ça. Mais je vais me droguer parce que je ne m'entends pas avec mes parents. Hein? C'est-à-dire, en fait, je vais être attiré par la drogue parce qu'au départ, il y a quelque chose qui me pèse profondément. Hein? Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une jeune femme qui se mettait des bouts de verre dans le nombril, hein, la scarification, pour avoir suffisamment mal pour ne pas penser à une souffrance plus importante. Hein, c'est ça l'origine de la dépendance. Donc en fait, quand vous faites quelque chose, pourquoi vous faites quelque chose ? Voilà. Donc la dépendance se forme en réaction. Et donc, pour ne pas former quelque chose en réaction, ce qu'il faut faire, c'est faire la chose par elle-même, ou plus simplement parce que le Seigneur me le demande. Je ne vais pas, moi, prendre la parole en réaction, hein, pour montrer que je sais poser des questions, intervenir. Non, je vais prendre la parole parce que je dois prendre la parole. Donc, première chose, la dépendance se forme en réaction. Et donc, si on enlève l'objet de la réaction, alors la dépendance va tomber d'elle-même. Deuxièmement, et c'est la dernière chose, la dépendance... C'est une habitude que je prends. Et une habitude, c'est la conséquence d'une somme d'actes. Hein, on trouve ça bibliquement, par exemple, en Éphésiens 4, verset 23, je crois, où il est dit, vous marchiez selon le train de ce monde. Vous aviez pris une habitude. Voilà. Et donc... pour sortir d'une dépendance, il faut sortir de cette formation réactionnelle et commencer à faire bien, mais ce que je n'avais pas l'habitude de faire, et créer une nouvelle habitude, mais une habitude qui est selon Dieu. Oui.
Et en tant qu'accompagnant, j'ai de la peine à voir justement pour cette deuxième partie comment aider quelqu'un à changer d'habitude. Comment agir concrètement et quelle place, par exemple, si la personne suit également un traitement médical, je pense souvent nécessaire dans des cas de drogue.
Donc, le traitement médical est heureux, on n'intervient pas du tout à ce niveau-là, on encourage même le souffrant à prendre son traitement, mais nous intervenons, comme on l'a vu, au fait d'être rempli de l'esprit, au fait d'enlever la formation réactionnelle, et au fait d'aider à de meilleures perspectives. Hein, je reprends ces trois choses. Marcher dans l'esprit, comprendre en fait comment ma relation avec Dieu peut se poser. Ensuite, enlever la formation réactionnelle, c'est-à-dire parler du problème qui produit la dépendance en soi. Et troisième chose, aider la personne à prendre de meilleures habitudes, par exemple en parlant des choses. Lundi matin à 9h, j'ai un monsieur qui est donc homosexuel, un chrétien, qui en souffre. Et donc, je parle de cette troisième chose, je l'aide à créer des conditions dans lesquelles une autre vie va pouvoir se poser. Hein, dans son rapport aux gens, dans son rapport à lui-même, dans son rapport à ce qu'il pense, etc. C'est assez précis ? Oui ? Quelqu'un ? Oui ?
Je me demandais, il y a des dépendances qui sont... qui agissent sur le plan physique, qui font qu'on ne peut pas... Bah, on prend le cannabis, par exemple, où il y a des traitements, il y a des choses qui font, où on diminue les doses, tout ça. Mais est-ce que, dans l'accompagnement, on peut aussi encourager les personnes à aller dans des centres ? Ou est-ce qu'on peut... est-ce qu'il y a des liens aussi avec des choses comme ça ?
Oui. Oui, je crois que c'est important... d'abord de reconnaître toute l'expérience de ces centres et ensuite éventuellement de conseiller à quelqu'un d'y aller. La question c'est je n'affirmerai pas que le fait d'agir sur ces trois domaines, c'est-à-dire premier domaine, être rempli de l'esprit, deuxième domaine, enlever la éviter la formation réactionnelle, et troisième domaine, avoir des bonnes perspectives qui soient spirituellement valables. Pour moi, ça peut faire que du jour au lendemain, par exemple, quelqu'un arrête de fumer. Ça, j'ai vu des gens comme ça, ou arrête de boire. Mais personnellement, je n'ai pas l'expérience pour dire que c'est arrivé à quelqu'un qui se droguait. Donc, je ne peux pas dire, et je n'ai pas eu affaire à quelqu'un qui se drogue, qui vient de me voir, et à qui j'ai à conseiller d'aller dans un centre qui s'occupe de ce genre de choses. Mais effectivement, y aura certainement des situations dans lesquelles on conseillera à cette personne-là d'aller dans ce centre et de venir nous voir. Je crois que un jour, j'ai eu un SDF alcoolique qui est venu me voir. C'était pas un SDF parce qu'il était souvent dans la rue, mais il était aussi chez sa mère. Et j'ai jamais vu quelqu'un boire autant de bière aussi vite. C'est impressionnant. Et et la difficulté que j'ai eue avec cette personne, c'est qu'en fait, lui n'avait pas la volonté pour continuer à venir parler avec moi. Alors je suis pas allé le chercher chez lui ou là où il était, ce qui fait que je lui ai conseillé d'aller voir d'être dans un centre qui s'occupe et qui l'encadre en fait pour qu'il puisse sortir de son alcoolisme. Oui. On va commencer par la première alors. Tout simplement, en écoutant sa souffrance, les trois clés. C'est pour ça que c'est ça qu'il faut que vous reteniez en fait. Hein. Les trois clés. On n'est jamais surpris ou désemparé parce que chaque fois qu'on aide quelqu'un à exprimer sa souffrance, alors on l'aide. Et donc si cette personne-là dit « je suis insatisfait parce que je vais voir trois personnes et je ne sais pas ce que je dois faire », alors il faut lui dire « mais donc, votre souffrance c'est d'être insatisfait, première clé ». Mais en fait, vous êtes insatisfait de quoi ? Mais je ne sais pas ce que je dois faire. Ça, c'est la pensée associée. Deuxième clé. Ah, vous ne savez pas ce qu'il faut faire, mais alors vous ne savez pas comment discerner la volonté de Dieu. Ah ben non. Et on ne me l'a jamais dit, en fait. Ah ben voilà. Donc on va en parler. Et là, on va faire un commentaire de Romains 12, versets 1 et 2, et de 2 Corinthiens 1, 12, avec la question de la conscience. Et on va amener cette personne à être autonome, et du coup, logiquement, elle n'aura pas besoin même de venir me voir après, puisqu'elle comprendra peut-être avec quelques entretiens comment discerner la volonté de Dieu et comment y marcher. Est-ce que ça répond là ? C'est-à-dire que là, on est vraiment au fond du problème où on va non seulement résoudre le problème de la personne, mais faire qu'elle ne comparera plus les accompagnateurs. Hein, voilà. Après, si la personne, si moi je dis ça à la personne et qu'elles me disent « Ah, mais j'ai bien entendu ce que vous m'avez dit, mais l'autre accompagnateur m'a fait beaucoup plus de bien que vous. » Bon, ben, on entend. On entend. Elle a le droit de le dire, ça ne veut pas forcément dire qu'elle ait raison. Ça va? Deuxième question? Comment faire avec ceux qui sont proches de soi? Jésus a dit, nul n'est prophète dans son pays. Et quand on voit Jésus à Nazareth, hein, il est dit, il ne put faire aucun miracle, si ce n'est quelques-uns. C'est étonnant, nul n'est prophète dans son pays. Et quand on en est tous là, en fait. On en est tous là. Hein, je suis... voilà, c'est mon cas. Nul n'est prophète dans son pays. Et les gens qui entendent quelqu'un d'un autre pays, entendent avec des oreilles plus grandes ouvertes. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est malheureux à nous d'entendre ceux de notre pays. Hein, mais on ne peut pas nous faire entendre les autres. On ne peut pas dire aux autres, écoutez, je suis dans votre pays, écoutez-moi. On peut leur dire, mais bon, on ne peut pas non plus... Il y a un moment donné où on se rend compte que c'est une réalité. Ça va comme réponse? Voilà, l'issue. Alors l'issue de cette situation, c'est toujours de faire ce qui relève de notre responsabilité. Deuxième clé. Voilà. Dans ma famille, dans mon église, dans le lieu dans lequel je travaille, je fais ce qui relève de ma responsabilité. Voilà. Si je ne suis pas entendu, quelque part, c'est peut-être que ce que je dis n'est pas bien. Mais peut-être aussi que, quelque part, ce que les gens entendent, ils ne l'entendent pas parce qu'en fait, finalement, la critique est facile et l'art est difficile. C'est plus facile de critiquer que de rentrer dans cette forme d'art. Et donc, Jésus, il y a eu des situations dans lesquelles il a rien fait, en fait. Le jeune homme riche. Et Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup d'argent. Voilà. Donc Jésus, il n'était pas prophète dans son pays. Hein, quand Hérode le convoque, hein, il le revêt d'une robe de pourpre, etc. Jésus ne lui répondit pas. Donc il y a un moment où on ne peut pas... En fait, Hérode, c'est le roi, et Jésus, il vient et il dit « Je suis le roi ». Il y a un peu une rivalité. Et Jésus ne lui a pas répondu. Parce qu'en fait, il n'était pas reçu dans son pays. Et je crois qu'il faut avoir cette sagesse de reconnaître que souvent, bien, il faut ne rien dire. Mais ne rien dire, c'est très sage. Ne rien dire, c'est faire quelque chose. Ne rien dire, c'est pas capituler. Ne rien dire, ça peut être attendre, ça peut être, voilà, dire, effectivement, je ne dis rien. D'autres choses? Voilà, alors je rappelle que le devoir est à rendre pour la fin novembre. Et ce que je proposerais, c'est que à ceux qui veulent avoir une meilleure note, hein, à ce compte-là, qu'ils me demandent un oral. Hein, voilà. À ceux qui, quand vous aurez la note de votre devoir, hein, à ceux qui veulent avoir une meilleure note, à ce compte-là, ils peuvent me demander un oral. Et j'attendrai... Donc, d'avoir tous les devoirs pour noter, Hein, je vous transmettrai les notes avec les corrections. Et ceux qui veulent aller plus loin et avoir une meilleure note, vous pourrez faire un oral. D'accord ?
Dès qu'on fait l'oral,
oui. Déjà, vous me demandez est-ce qu'il y a d'abord une note sur un travail personnel qui est censé être sur soi enfin, je ne sais pas si vous comprenez ou à quoi ça tient.
Mais c'est un travail qui est une gestion d'outils. Hein, c'est un travail. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit que ça, c'était forcément un travail personnel. Hein, j'ai dit, vous prenez soit votre cas particulier, soit un exemple de quelqu'un que vous connaissez. Mais je dis, en fait, le travail, c'est d'utiliser les outils qui vous sont proposés et de montrer que vous avez compris, en fait, comment cet outil fonctionne. Hein, les outils, ce sont notamment les trois clés et la grille des émotions. Comprendre, en fait, à quoi vous servent ces outils-là. Voilà.